à lire Les coups de cœur de Laurence, des rencontres avec des auteurs, des lecteurs et pas que. Le deuxième vendredi du mois à 11h sur nos ondes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en cette chaude après-midi mois de juin pour cette émission, donc de cette sélection du mois de juillet. C'est un mercredi après-midi et c'est vrai que les enfants sont particulièrement excités. Alors, quoi de mieux que de leur confier un livre, de leur mettre un livre entre les mains pour les calmer et leur faire apprécier tout simplement la fraîcheur d'un intérieur. Alors j'ai amené avec moi une petite sélection, mais surtout je donnerai la parole à mes trois petites chroniqueuses qui ont des âges très différents et qui donc pourront faire, vous présenter leur propre sélection. On va commencer avec Julie qui va nous parler d'un livre d'un auteur, enfin d'une autrice qu'on aime particulièrement, Chris Gardaz. Je te laisse la parole, Julie, pour nous présenter cet ouvrage.
Bonjour. Alors là, je vais vous présenter Les Voyageurs des Miroirs, donc de Chris Gardaz. Donc là, je vais présenter le premier tome. Le premier tome, il s'appelle La Forêt des Trolls. Donc, c'est édité par Le Gâteau sur la Cerise. Le résumé, c'est Rose Jersey, 12 ans, est en vacances dans le manoir de sa grand-mère. Et il y a très longtemps, son grand-père, il a disparu. Et Rose, elle voudrait en savoir la cause. Donc elle va se lancer dans une aventure pour retrouver son grand-père. Et elle va essayer. Donc là, je vais vous lire un petit extrait.
Donc, Des Voyageurs, des miroirs de Chris Gardaz.
Yes.
You speak English. Oh, good.
Prends garde à toi.
Listen to you.
Prends garde à toi, Prince Léon. Tu ne tiendras pas longtemps seul face à mon armée. Andy Jersey esquiva adroitement. Un coup d'épée imaginaire roula dans l'air mouillé, se releva et hurla en bondissant sur un adversaire invisible. À Paris, Andy, 10 ans et demi, n'avait pas souvent l'occasion de lutter à main nue ou l'arme au poing contre les créatures maléfiques. L'appartement qu'il partageait avec ses parents et sa sœur, Rose, ne possédait ni cour ni jardin. Mais ici, chez Maming, Andy adorait jouer dehors et combattre l'horrible prince Léon. Seigneur mutant venu du futur sur son dragon pour le détruire. Andy ne comptait pas se laisser faire et passait le plus clair de son temps libre à se défendre à grands coups d'épée. Et du temps libre, il en avait car il était en vacances. Entre deux combats, pour se reposer, il observait les écureuils malicieux jouant à cache-cache dans les majestueux châtaigniers, maître du jardin de sa grand-mère. Andy avait toujours été fasciné par ses agiles acrobates. Il imaginait qu'il était le gardien d'un trésor oublié dans les roses à pompons ou dans les cabanes sous les noisetiers. Andy était sûr qu'un jour il découvrirait ses amas d'or. Il se trompait. Mais la découverte qu'il ferait avant la fin de la journée bouleverserait sa vie à jamais. Andy et Rose étaient arrivés la veille au soir en train. Début octobre, ils avaient insisté auprès de leurs parents pour aller chez Maming pendant les vacances de la Toussaint. « Allez maman, s'il te plaît, j'ai oublié le dernier tome d'Harry Potter là-bas et j'ai fini le sixième », avait supplié Rose. « Tu les as tous déjà lus ?» Ça ne tient pas, d'autant plus que tu peux les emprunter à la bibliothèque. Oui, mais cette fois, j'ai promis à la cuisinière de Maming que je lui passerai tous mes livres dès que j'aurai terminé. Ce ne serait pas sympa de faire attendre trop longtemps, avait imploré Rose, la tête penchée sur le côté, les deux mains jointes dans un geste de prière, ses grands yeux clairs fixés sur sa mère.
Donc c'était un extrait des Voyageurs des Miroirs de Chris Gardaz. Tu as apprécié ce premier tome?
Oui, beaucoup. En fait, il est... comment dire? On se lance beaucoup dans les aventures et quand on est dans le livre, on peut plus s'arrêter.
D'accord. Donc il existe 3 tomes différents des Voyageurs des Miroirs,
oui,
qui ne sont pas tous réédités, mais on peut les trouver. Et il y a eu une édition, donc effectivement, à la cerise bleue, enfin, la
non,
cerise
non,
sur le gâteau.
C'est le gâteau, c'est le gâteau sur la cerise.
D'accord. Moi, l'image entre la couverture dans les tons bleus et l'idée de cerise, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau bleu. Voilà, il faut tout mettre ensemble. Ok, très bien. Merci Julie pour cette sélection.
De rien.
On va demander maintenant à Marie de nous présenter un de ses titres. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est sorti récemment, Strong Girl Forever, Comment ne pas devenir cinglée, de Holly Bourne. Donc, ce premier roman de la trilogie parle d'Evie, une jeune adolescente de 16 ans, qui a du mal à se faire des amis. Elle revient à l'école après une longue période sans avoir été à l'école. Et elle retrouve ses anciennes amies et elle se fait de nouvelles amies. Mais elle n'arrive pas à parler de son problème. Son problème, c'est qu'elle a des tocs qui l'obligent à se laver les mains 60 fois dans la journée, à faire des crises d'angoisse et d'autres choses pas bien amusantes. Elle aimerait vraiment être normale et elle veut faire la fête, avoir un copain, enfin bref, voilà. Ce livre, il est drôle, il est intéressant, il y a des idées féministes. Moi, j'aime bien. Et même si on peut penser que cette histoire, elle est un peu gnangnan, elle l'est vraiment pas. Maintenant, je vais vous lire un extrait qui va parler de ses tocs.
Donc, un extrait de Strong Girls Forever de Holly Bourne.
Le trouble bipolaire peut tuer, vous savez. Certains malades se jettent sous un train ou avalent des flacons de paracétamol en laissant des lettres d'adieu à leur famille désespérée parce que leur cerveau tyrannique ne leur laisse pas une minute de répit et qu'ils n'ont plus la force de vivre. Le cancer aussi tue. Et je n'entends personne dire « Oh là là, j'ai super mal à la tête aujourd'hui, je dois avoir une tumeur. » Alors qu'apparemment, ça ne pose aucun problème de tourner en dérision le vocabulaire de l'enfer intérieur. Moi, ça me met en rage contre tous ces gens qui ne comprennent rien. Ah bon? Tu as des tocs? Ça veut dire que tu te laves les mains tout le temps, que tu te laves tout le temps les mains, c'est ça? Manque de bol, je suis atteinte du plus cliché du lot. Un vrai stéréotype. Mais ce n'est pas comme si je l'avais choisi. Oui, c'est vrai, je me lave tout le temps les mains. Enfin, je me les lavais tout le temps. J'en ai toujours envie, à chaque seconde, de chaque jour, mais je ne le fais plus. J'ai aussi perdu 6 kilos parce que je refusais de manger quoi que ce soit de peur d'être contaminée et de mourir. Je suis assaillie de pensées négatives qui tournent en boucle dans ma tête sans que je puisse leur échapper. Et je suis déjà restée 8 semaines sans sortir de chez moi. Donc non, ça ne se résume pas à se laver tout le temps les mains. Et non, tu n'as pas de toc toi aussi. Si tu en avais, tu n'en parlerais pas. Tout simplement parce que, malgré les immenses progrès accomplis, certaines personnes ne pichent toujours pas. La maladie mentale est un monstre qui vous attrape par la jambe et vous avale malgré vos hurlements. Elle vous rend égoïste, elle vous rend irrationnel, elle vous rend auto-centré. Elle vous rend exigeant. Elle vous fait annuler vos projets à la dernière minute. Elle vous rend ennuyeux. Elle vous rend épuisant à côtoyer. Et ce n'est pas parce que les gens maîtrisent 2 ou 3 mots de vocabulaire qu'ils supportent mieux la réalité que ceux-ci recouvrent. Ils sourient, ils hochent la tête. Ils disent « Oh oui, c'est terrible, j'ai vu un reportage sur ça l'autre jour, ma pauvre. » Et ensuite, ils se vexent parce qu'on a fait une crise de panique pendant la soirée et qu'on a dû partir tôt. En dépit de toutes leurs petites caresses sur la main et de leur « tu peux compter sur moi », dès qu'on a vraiment besoin de leur compréhension, ils retombent tous dans les mêmes travers. « Quand même, fais un effort, tu exagères, mais ça n'a aucun sens. » Voilà pourquoi je ne pouvais pas en parler à Lottie et à Amber. Voilà pourquoi je devais garder tout ça pour moi. Parce que si j'étais confrontée à une personne de plus qui ne me comprenait pas, je n'étais pas sûre d'être capable de le supporter. Voilà, donc c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous donnera envie de le lire.
Eh bien, merci Marie pour ce premier ouvrage de ta sélection de ce mois-ci. Moi, j'avais envie de vous parler d'un autre livre destiné à la jeunesse, au young adult, qui me semble encore d'actualité, puisque le Brexit, c'est pas terminé. Nous avons tellement d'épisodes de rebondissements et puis prochainement, on a le changement du Premier ministre anglais. Donc, j'avais envie de parler tout simplement d'un ouvrage écrit par un auteur français, Clémentine Beauvais, qui vit en Angleterre. Et cet ouvrage s'appelle Brexit Romance. Alors, ça parle de Justine qui a décidé de militer contre le Brexit en créant une entreprise qui rapproche anglais et français pour l'obtention de passeports. Mais ce n'est pas si simple pour elle d'amener les autres à contracter des mariages blancs parce que oui, cette entreprise qu'elle crée, c'est pour amener les Anglais et les Français à se rapprocher par des liens sacrés. Donc, elle va tout faire, tout manigancer ces mariages blancs, mais malheureusement, elle va finir par tomber amoureuse d'un professeur de musique d'une de ses clientes, Kamenef. Et bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce serait vraiment spoiler ce livre qui est passionnant, surprenant. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, d'autant plus que l'auteur ou l'autrice s'est vraiment mêlé personnages de la réalité avec personnages de fiction. Donc, je vais vous lire un extrait de Brexit Romance de Clémentine Beauvais. Après une gorgée de thé, Justine revint à ses conversations. Elle bavardait avec deux Français dans leur langue, exercice fréquent depuis la création de Brexit Romance. Ses doigts sur le clavier crépitaient presque au même rythme que lorsqu'elle écrivait en anglais. Un message apparut sur l'écran. « Mais si jamais la police vérifie, t'imagines, s'ils viennent contrôler, ils voient que ça est arrangé. » Justine leva les yeux au ciel et patiemment se mit à expliquer dans son français le plus formel que « Tous nos mariages arrangés sont dans un scrupuleux respect des procédures et les couples doivent soumettre à des interrogations pour être coachés en cas où la police vient leur poser des questions. » Quel genre de questions ? Des questions sur, par exemple, quel côté du lit l'autre personne dorme ou quel est le nom de ses parents. Et pour ça, vous nous donnez une réponse ? On prévoit tous ensemble des réponses afin que tout est comme dans une vraie relation de couple amoureuse. Il y eut un silence en forme de bloc de texte immobile. Puis les blocs coulissèrent à nouveau vers le haut. « Alors, c'est pas illégal ?» sent-il français. « Ce n'est pas proprement parlé légal, mais ce n'est pas tout à fait exactement illégal. »« C'est bien une réponse d'anglais, ça, lol !» dit le français. En dépit de ses hésitations, ce français-là était, dans l'ensemble, plutôt convaincu déjà. Il projetait de s'installer à Manchester pour fonder un groupe de musique garanti de revenus minuscules et irréguliers, et il lui serait donc fort utile de solidifier par le mariage cette existence bohème post-Brexit. Qu'il souhaita aller à Manchester était particulièrement pratique pour Justine. Il lui manquait justement des gens désireux de s'installer dans le nord de la Grande-Bretagne. La plupart des Français, lui semblait-il, vivaient dans l'ignorance totale des quelques centaines de kilomètres de territoire au nord de Londres. Elle espérait caser celui-là avec une mancunienne de 27 ans qui avait été l'une des toutes premières femmes à implorer Brexit Romance de lui trouver un mari européen. « Je crois que j'ai quelqu'un qui taille », subjonctiva approximativement Justine. Et elle mit un smiley qui clignait de l'œil. « Qui taille quoi ?» répondit le français en renchérissant avec deux smileys clin d'œil. Justine ne comprit pas l'intéressante plaisanterie. « Je te reviens vers toi bientôt », lui dit-elle. Et punaisa quelques XX affectueux à cette conversation avant de la fermer pour se consacrer à l'autre. Voilà, c'était un extrait de Brexit Romance. On se fait maintenant une petite pause musicale avec un groupe français qui s'appelle Naive New Beaters et un titre « Ill Tomorrow ». Today you heard me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you heard me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you heard me, gonna heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you heard me, gonna heal tomorrow. Like a sandcastle.
taking off your mask. You such a curious, they try to keep it lost like a blooming lotus. He told me to, had to think of what else now to do. You think it's obvious, but promise we no bold like a bunch of genius.
C'était donc un titre de Naive New Beaters, Heal Tomorrow. Maintenant, nous allons revenir à notre sélection avec Julie qui nous présente Cheval de légende de Fabienne Blanchu.
Oui, c'est ça. Donc, je vais vous présenter Cheval de légende de Fabienne Blanchu, édité par Florius. Donc, le résumé, c'est en fait Harry Graceway. C'est un enfant dont, en fait, à l'école, tout le monde se moque. Donc, souvent, eh ben, on casse ses lunettes, on déchire ses cahiers. Et aussi, en même temps, ça raconte l'histoire d'un poulain qui vient de naître, qui s'appelle Gladiateur. Et en fait, ces deux personnages, ils vont se rencontrer dans l'histoire. Et ça va faire... Ça va être une très belle histoire d'amitié.
Merci. Tu nous en lis un petit passage ?
Oui, je vais vous lire un petit passage. Donc, acheté aux enchères. Frédéric Lagrange est un homme heureux. Il vient d'acheter Monarque pour une somme qui ferait tourner la tête à n'importe qui. Mais Monsieur le Comte est un homme riche et rien n'est trop beau pour parfaire son écurie. Lui, son bras droit, l'ancien jockey et désormais éleveur, Henry Jennings. Gardien depuis 2 années déjà. Un œil sur sublime étalon, baie brun né en 1852, au haras de Victor demeuré, invaincu l'année de ses 3 ans. Monarque est un champion doté de gènes que l'on suppose fantastique. C'est l'hypothèse folle qu'ont faite le comte et Henri, l'étalon n'ayant encore jamais procréé. Bref, en ce samedi matin, pluvieux, Monarque, fils d'empereur, vient d'être adjugé à Frédéric de Lagrange, qui a dû renchérir pour l'acquérir. Une fois le marteau abaissé par le commissaire priseur sur sa dernière enchère, le comte tend une main ferme à Henri, qui s'en empare et la presse contre sa paume calleuse. Ça va être à vous de jouer. Henri sait qu'il tient sur le papier, du moins le reproducteur parfait pour le haras. Il pousse un soupir, prenant soudain conscience des tâches qui lui incombent et du poids qu'auront ses décisions. Voilà, donc c'était un extrait de Cheval des légendes. Écrit par Fabienne Blanchu.
Merci Julie. On va passer maintenant à un deuxième ouvrage présenté par Marie.
Oui, donc maintenant je vais vous présenter La théorie de l'iceberg de Christopher Bouix. Donc en fait, c'est l'histoire de Noé, un adolescent de 15 ans qui se referme sur lui-même après un accident de surf. Il décide de se réfugier dans la lecture et même dans l'écriture. Et sa prof de français le pousse à écrire une nouvelle pendant l'été pour un concours. Cet été, il sera riche en émotions, en amitié. Et je vais d'ailleurs vous lire un extrait à propos du début d'une amitié avec un monsieur assez mystérieux. Lorsque monsieur Herrera est revenu, il n'avait dans les mains qu'un petit rectangle de cuir rouge qu'il m'a tendu par l'entrebâillement de la porte. C'était mon carnet. « Raz-de-marée est un mauvais titre », a-t-il dit. Pas assez percutant. Et il a claqué la porte, me laissant une nouvelle fois sur le seuil comme un idiot. La porte entre nous s'était progressivement entr'ouverte. La raison semblait bonne, mais j'étais tout de même un peu furax qu'il ait fouillé dans mes affaires. Le vieil homme a craqué une allumette et allumé le foyer de sa pipe. Une fumée épaisse et bleuâtre a immédiatement rempli l'espace entre nous. « Tu comprends ?» a-t-il repris d'un coup. « Un titre, ce n'est pas seulement une indication de ce qui va se passer dans l'histoire, c'est aussi une promesse, un secret. Il faut que ce soit mystérieux et alléchant, comme une boule de glace au rhum avec des raisins dedans. Exactement comme ça. » Son regard s'illuminait à mesure que les mots sortaient de sa bouche. « Raz-de-marée, c'est... Pff. C'est un peu ennuyeux, tu ne trouves pas ? Ça ne me fait pas rêver. » C'est de la glace à la piste de chat, Fahrenheit 451, abattoir 5, le sommeil paradoxal, orange mécanique, ça c'est du titre. Du titre qui roule des mécaniques, du titre qui claque comme vous dites les jeunes, qui claque sa mère. C'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui, pas vrai ? Il a tiré une bouffée de sa pipe et recraché un nuage de fumée dans ma direction. Je suis restée quelques secondes sans voix. Je ne pensais pas voir un jour dans ma vie quelqu'un en robe de chambre et en charentaise, pipe à la main, utiliser l'expression « claquer sa mère ». Voilà, donc là c'est la fin de ce petit extrait de « La théorie de l'iceberg » écrit par Christopher Briggs.
Merci Marie pour ta sélection, c'était donc le deuxième ouvrage que tu avais sélectionné pour ce mois-ci. On rappelle que tu as fini ton collège, tu vas maintenant aborder le lycée. C'est juste pour donner une indication par rapport à tes lectures et les âges qui correspondent un petit peu à ces thématiques que tu abordes. On va maintenant donner la parole à notre plus jeune chroniqueuse, Camille, qui, elle, vient enfin d'apprendre à lire toute seule. Et elle vient donc nous présenter un livre qui s'appelle...
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne dans une collection qui s'appelle Mes amis les chevaux de Sophie Talman. Alors, de quoi parle ce livre, Camille ?
Des chevaux qui. Et que les. Que les enfants, bah, ils montent sur les chevaux et du coup, bah, il pleut, bah. Voilà.
Ah, donc, il y a des enfants qui montent sur des chevaux et il pleut.
Oui, après, bah, il est toujours... Il y a des nuages gris et après, bah, un moment, bah, il pleut doucement et après, bah, il pleut très fort et il y a des orages.
C'est une sélection intéressante. Vu le temps qu'il fait en ce moment, ça ne peut que rafraîchir des lecteurs. Est-ce que tu veux nous en lire un petit passage ?
Oui.
Nous montrer comme tu lis bien depuis que tu as appris donc la lecture cette année. On t'écoute.
D'accord. Le soleil se lève sur le haras. Les chevaux sont dans l'enclos. Ils ennuient de satisfaction. Ils sont enchantés de profiter de l'aube car ils adorent se coucher.
Ils adorent ?
Ils adorent. Se coucher dans l'arbre humide de rosée, sauf Féline, qui aurait préféré rester au calme dans l'écurie. Pourquoi Sophie et Victor ont-ils sorti si tôt ? Bougonne la jument pour que nous respirions le bon air frais du bon du matin, répond Zéphyr. Le pur sang plonge le nez dans un buisson, puis il s'ébroue joyeusement. Moustique s'empresse de l'imiter. Dans une marguerite, le petit chou va s'en remet, s'exclame le inquiète. Je ne suis pas un petit chou et je n'ai pas froid du tout, proteste Moustique. Il plonge à nouveau le nez dans le buisson, tandis qu'Andalou s'approche. Loulou a raison. « Fais attention, conseille-t-il gentiment au poney. Ne soyez pas si frayeux. »«
Si effrayé ?»«
Oui. »«
Si effrayé ?»«
Souffle alors, percheron. » Victor et Sophie ont mis dehors des l'aurore. De l'aurore, parce qu'ils veulent que nous soyons bien réveillés pour participer au trek. La randonnée spéciale des cavaliers, à cet instant même, les chevaux aperçoivent Victor qui court à sa camionnette dans la cour.
On va peut-être s'arrêter là à l'instant où Victor court vers sa camionnette. Ça te va, Camille ?
Oui.
C'était un extrait, donc, de « Mes amis les chevaux, que le meilleur gagne », une collection donc de Sophie Talman. On va maintenant écouter une interview de Lisa Blumen lors des rencontres du CRIJ. Alors, Lisa Blumen est une autrice et illustratrice. Elle a notamment écrit et dessiné un petit livre qui s'appelle « Gros ours ».
Ah, c'est intéressant comme question parce que, en fait, j'ai été assez étonnée que les gens, les groupes que j'ai eu avant étaient surpris du temps que j'ai pris. Donc j'aimerais bien savoir, vous pensez combien de temps que j'ai mis pour faire ce livre. Je l'ai dessiné et écrit.
Un mois.
Allez-y, dites-le.
Deux mois.
Une semaine. Oh, putain, je suis carbure là, une semaine.
Oui,
trois mois, c'est ça. T'as bien joué, tu as gagné
un sucre.
Oui, j'ai mis 3 mois pour l'écrire. Et du coup, il y avait pas mal de groupes qui étaient surpris. Ils disaient, attends, 3 mois, c'est vachement long. Et en fait, 3 mois, c'est pas grand-chose. Moi, pour moi, c'est vraiment pas beaucoup, 3 mois. Parce que l'histoire s'est écrite très rapidement et c'est dessiné aussi assez rapidement. Pour donner un exemple, là, j'ai un ami, ça fait 10 ans qu'il travaille sur un livre. Donc, il ne fait pas que ça, hein, mais il travaille sur d'autres livres. Mais du coup, ça prend du temps d'écrire des livres et de les dessiner. Oui ?
Est-ce qu'il y a une inspiration ?
Pour ce livre-là, j'étais dans le métro et je voyais une affiche avec un gros ours, un ours dessiné dessus par Nicolas de Crécy, c'est un auteur de bande. Et je le trouvais super triste tout seul sur son affiche dans le métro. Du coup, je me suis un peu amusée à commencer à le dessiner et à écrire un peu vaguement une histoire, à mettre la petite fille qui vient lui poser des questions, mais pourquoi t'es triste. Et ensuite, c'est mon professeur à l'époque, qui était aussi éditeur, qui a dit « Ah, mais c'est super ça, moi je l'ai dit. » Voilà. Du coup, c'était assez facile comme projet et comme inspiration. Oui ?
Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre pour des petits et pas pour des plus grandes personnes ?
Parce que cette histoire-là s'y prêtait pour cette tranche d'âge-là, c'est-à-dire que c'était pas, c'était des préoccupations assez faciles d'accès. Mais après, moi, j'aime bien me dire qu'il n'y a pas forcément d'âge pour lire un livre. J'aime bien, moi, j'adore toujours lire des livres jeunesse, et pourtant, je suis plus une enfant. Et comme quand j'étais petite, j'aimais bien lire des livres qui étaient plus pour les plus grands que moi. Du coup, cette tranche d'âge, c'est pas, c'est pour les petits. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est à partir d'un certain âge et qu'ensuite après, jusqu'à 99. mais en fait, je fais aussi pour adultes, du coup, je fais les deux. J'espère et j'aimerais continuer à essayer de m'adresser un peu de la même façon aux enfants que aux adultes.
Vous écrivez quand dans la journée ?
Moi, j'écris le matin. C'est la première chose que je fais. Souvent, je me petit déjeuner, je prends mon café en travers. Alors, je pense que je suis la seule de mes amies à faire ça, qui sont plutôt de la nuit, des oiseaux de nuit. Et moi, j'adore faire ça le matin.
À partir de quel âge vous avez commencé à écrire ?
J'ai toujours écrit depuis toute petite. Des trucs super nuls au début, comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu un peu mieux. Mais c'est surtout que je pensais pas que c'était un métier au départ. Mais que j'écris là vraiment pour que ça soit mon métier, ça fait depuis. Gros ours, c'est mon premier livre, j'ai sorti il y a 3 ans, 4 ans.
Vous avez fait
venir un
proche ?
Ah, c'est toujours la grande question, le retour des proches sur les livres. Mais oui, de toute façon, ils l'ont vu en librairie, hein, donc ils ont été obligés de le voir au bout d'un moment. Mais oui, ils l'ont lu, et c'est assez drôle parce que, par exemple, mon père dit jamais rien sur mes livres, mais il les affiche toujours dans le salon, donc je pense qu'il aime bien, c'est assez mignon. Mais sinon, oui, je l'ai fait lire à mes proches. Après, je pense que ce qui est important quand on écrit, c'est de pas trop rapidement faire lire ses textes à ses proches. Parce que je pense que c'est assez important de les garder un peu pour soi pendant un moment. Parce que comme on a un peu tendance à être un peu critique envers nous-mêmes et à se dire « Ah non, c'est pas assez bien ce que je suis en train de faire. » S'il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que c'est pas assez bien alors que c'est pas encore terminé, eh ben, on va souvent tendance à avoir envie d'arrêter le projet. Et je pense qu'il ne faut pas faire ça. La plupart du temps, il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Et même si c'est pas bien, mais on s'en rend compte après. Mais en tout cas, je pense que c'est important de garder pour soi un peu au chaud pendant un moment.
Vous en avez fait combien ?
De livres ? De publier, j'en ai écrit un et j'en ai illustré 3 autres. Du coup, ça fait. Donc, c'est pas bon.
Est-ce que tous les livres sont dans le même style que Gros Ours ?
Le style de dessin ?
Oui.
Non, vraiment pas du tout. C'est ça qui est assez intéressant dans le dessin, surtout peut-être aussi parce que je suis encore étudiante, donc je suis encore en apprentissage. C'est que il n'y a pas. On évolue tout le temps en fait. Et même, je pense que c'est un peu pareil quand on écrit parce que dans notre vie, il se passe plein de choses et du coup, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est un peu nouveau à chaque fois. Et je pense que c'est un peu pareil dans le style de dessin, c'est que à chaque fois qu'on voit un nouveau truc qui nous plaît ou qu'on change nous-mêmes, et bien notre vie change en même temps que nous. C'est un peu pareil avec les vêtements, je ne porte pas les mêmes vêtements quand t'as 6 ans que quand t'as 13 ans. Je reviendrai finir toi de faire.
Depuis quand vous dessinez ?
Depuis très longtemps, très très longtemps.
Ça s'est amélioré ?
Oh bah oui, oh là là, ça je te le fais pas dire. Heureusement, parce que sinon ça serait pas publié. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui serait intéressé. Mais oui, je dessine depuis très longtemps et comme je fais des études là-dedans, j'ai appris plein de trucs. Enfin, j'espère que je dessine mieux qu'avant et surtout que j'arrive mieux à dire ce que j'ai envie de dire dans mon dessin. Voilà. Pardon, oui.
Vous aimeriez que ça soit sur la télévision, le livre ?
Que, par exemple, on fasse des dessins animés ou des trucs comme ça ? Bah oui, ça me ferait de l'argent. Non. Je pense que c'est toujours intéressant. En fait, ce qui est vraiment bien quand on écrit un livre et qu'on le publie, c'est que le livre, après, il n'est plus vraiment à nous, en fait. Il fait sa vie sans nous, c'est-à-dire qu'il, que moi, par exemple, Gros Ours, ça fait 4 ans que j'ai sorti, donc moi, je suis complètement passée à autre chose. Gros Ours, c'était un vieux pote, maintenant, on s'appelle de temps en temps, mais pas trop. Mais il fait sa vie, quoi. Il continue à toucher des gens, et je pense que c'est intéressant, du coup, de voir le livre évoluer en d'autres choses, que ça devienne un dessin animé, et de voir aussi comment les gens et les lecteurs, ou du coup les gens qui vont peut-être faire un dessin animé avec le livre, vont se l'approprier, c'est-à-dire vont le faire parler, ou comment il va leur parler à eux. Voilà, donc ça c'est intéressant.
Par livre, vous gagnez combien à peu près dans un livre?
Alors là, ça dépend vachement, mais c'est intéressant, c'est bien de savoir ça. mais ça dépend vraiment beaucoup parce que ça. Moi, comme je suis une jeune autrice, je gagne pas énormément. Ça va entre 500 et 3000 euros. Donc c'est pas énorme.
Là, c'est quand même beaucoup.
Par livre. Et en fait, c'est un petit peu compliqué parce que... Non, c'est... En fait, il faut se dire que déjà, comme je vous l'ai dit, le livre, ça me prend 3 mois pour le faire. Donc, si on gagne que 500 euros en 3 mois, bah, c'est pas beaucoup parce qu'il faut manger. Mais... en fait, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si je rentre dans les détails, mais quand on écrit, si ça vous intéresse, si ça vous ennuie, vous me dites stop. Quand on sort un livre, en fait, avant de le sortir, on gagne du coup cet argent-là. Et en fait, après qu'il est sorti, on gagne une petite partie d'argent à chaque fois que quelqu'un achète un livre. Mais c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est quelques centimes. On peut s'acheter un Malabar à chaque livre, quoi. Donc c'est pas la fête.
Donc c'était un extrait de l'interview de Lisa Blumen lors des rencontres du Cridge 01 qui ont eu lieu en ce début de mois de juin 2019. Maintenant, alors que nous avons extrêmement chaud dans ce studio, je vais présenter un livre qui va être pour nous une provocation tant la couverture nous donne envie de nous rafraîchir parce que cette couverture a pour illustration un bâtonnet de glace. Et donc, ce côté gourmand nous incite à cette lecture, la lecture de Diabolo Fraise de Sabrina Bensalah. Dans Diabolo Fraise, on a une sorte de fille du docteur March moderne, avec 4 jeunes filles qui ont entre 11 et 18 ans. Il y a Antonia, Mariek, Jolène, Judy. Et chacune vive des instants de leur féminité, de leur adolescence. Et on les retrouve donc à différentes étapes. Et ça fait vraiment une famille qu'on aimerait bien côtoyer dans la réalité. Alors, Antonia apprend assez vite qu'elle est enceinte. Mariek et Jolène ont leurs premiers petits amis. Et Judy fait ses premiers pas, un peu comme Julie, au collège prochainement. Donc je vais vous lire un extrait de Diabolo Fraise et la langue n'est pas dans la poche, en tout cas de Sabrina Bensalah, c'est ce qu'on peut apprécier dans cet ouvrage. Perchée sur le balcon, Antonia balaye des yeux ses frangines, puis son quartier situé au cœur de Mably, la petite cité de Noyon et ses petits immeubles aux portes de Roanne renferment ses souvenirs d'enfance. Tout près, il y a l'arsenal, quartier de l'industrie militaire où se construisait le char Leclerc, entre autres. Elle se souvient des vitres de son école qui tremblaient. Elle s'imaginait alors qu'une explosion venait de marquer le début de la Troisième Guerre mondiale. Après un bref coup d'œil sur Judy, elle quitte le balcon. À son tour, elle s'enferme dans les toilettes. Elle se hisse sur la pointe des pieds et extirpe du fond de l'étagère le test de grossesse qu'elle a acheté la veille. Et dans le silence exigu, déploie la notice. Elle commence sa lecture, se concentre sur les mots, les schémas, n'oublie pas les mises en garde, regarde en direction du plafond en signe d'appréhension, longue expiration pour la chasser, elle coince sa jupe sous son manteau, baisse sa culotte, ajuste le test. Il semble être bien en place, mais la bandelette est si petite, ses doigts si proches qu'elle n'est pas... La poignée des toilettes s'agite avec fracas. Vite, vite, Antonia, je vais faire dans ma culotte. Ah, Judy, c'est vraiment pas le moment. Vite, je peux plus me retenir. Antonia remet le test dans l'emballage, jette le tout sous la chasse d'eau, elle sort, narine gonflée de colère. « Grouille, Judy !» Furieuse, elle retourne à la cuisine, croque dans un petit beurre tout en zietant par le balcon. Mariek et Jolène sont toujours en bas, entourés de quelques copains du quartier. Au quatrième biscuit, le bruit de la chasse d'eau coule enfin dans ses oreilles aux aguets. « T'en as mis du temps ?»« En fait, j'avais envie de faire caca, s'excuse Judy. C'est quoi ça ?» Elle ajoute en tendant la notice du test à sa grande sœur. « Ça ne te regarde pas, gronde Antonia, qui lui arrache la boîte des mains. On peut savoir ce que tu vas fiche sous la chasse d'eau ?»« Rien, ça traînait par terre. Tu dis rien, ok ?» Antonia regarde Judy hausser les épaules. A-t-elle seulement compris de quoi il s'agit ?« Promis, tu me donnes ton gros collier brillant en échange de mon silence ?»« T'es vraiment une fribouille, allez maintenant va-t'en loin d'ici et ne reviens pas avant tes 20 ans. » Elle retourne dans les toilettes et dans l'intranquillité se remet à l'ouvrage. Comme la bandelette est décidément trop petite, qu'elle tremble, que l'envie est devenue urgente, elle s'arrose les doigts avant d'atteindre le test. Bordel ! Par moments, on dirait que les planètes s'amusent à se disperser dans la galaxie pour rendre la vie pénible. Antonia ne pense pas avoir jamais connu d'alignement glorieux. Sauf, apparemment, sur la fenêtre du test, elle regarde avec stupeur les deux lignes roses parfaitement parallèle. Voilà, c'était un extrait donc de Diabolo Fraise de Sabrina Bensalah. Maintenant, nous allons laisser Julie nous présenter le dernier ouvrage de sa sélection avec Histoire du soir pour filles rebelles.
Oui, donc je vais vous présenter Histoire du soir pour filles rebelles. Donc c'est édité par Les Arènes. Donc en fait, ce livre, il raconte l'histoire de femmes muettes, aveugles, sourdes ou différentes. Elles ont toutes en fait une histoire fabuleuse à vous raconter. Donc justement, là, je vais vous en raconter une. Donc Usra Mardini, c'est une nageuse. À Adama, en Syrie, vivait une nageuse appelée Usra. Chaque jour, sa sœur et elle s'entraînaient avec leur père à la piscine du quartier. La Syrie était en guerre et un jour, une bombe tomba dans la piscine. Heureusement, Usra n'y s'y trouva pas. Peu de temps après, sa maison fut détruite par une bombe. La famille survécut encore une fois de justesse. Et Usra, ses proches, n'avaient soudain plus rien et nulle part où aller. Alors, ils décidèrent de fuir le pays. Usra avait entendu dire que l'Allemagne était un très bon endroit pour nager. Le trajet serait long et difficile, mais cela ne la découragea pas. Avec un groupe de réfugiés, Usra et ses sœurs voyagèrent un mois à travers le pays. Puis elles embarquèrent dans un canot pneumatique pour rejoindre l'île de Lesbos en Grèce. Le bateau était fait pour accueillir 6 ou 7 personnes, tout au plus, mais 20 passagers se trouvaient à bord. Soudain, le moteur tomba en panne. « Nous ne pouvons pas mourir en mer, » pensa Usra. « Nous sommes des nageuses. » Elle sauta à l'eau avec sa sœur et un autre garçon. Ils nagèrent, tirant et poussant le bateau pendant plus de 3 heures jusqu'à atteindre enfin la côte. « Où puis-je trouver un club de natation ?» demanda Usra, à peine arrivée en Allemagne. Non seulement Usra trouva un club, mais en 2016, elle fit partie de la toute première équipe des réfugiés qui participaient aux Jeux Olympiques. Donc, Israël est née le 5 mars 1998 en Syrie. Et elle a aussi ajouté une petite phrase. « Je veux que tous les réfugiés soient enfin fiers de moi. » Voilà.
Merci pour cette présentation donc, d'un recueil qui s'appelle « Histoire du soir » pour filles rebelles aux éditions Les Arènes. Alors, le dernier livre que je vais présenter maintenant est un traité d'éducation. C'est vrai que, à un moment donné, on se pose tous la question quand on a des enfants. Surtout que là, si on filmait le studio, on verrait à quel point certaines, je ne donne pas de nom, sont excitées et s'agacent. Et donc, la tentation, si j'étais beaucoup plus fatiguée, la tentation peut-être me viendrait de donner une fessée. Et c'est de quoi parle le traité d'éducation donc, que je vous présente sur ce dernier ouvrage donc, de notre sélection du mois de juillet. Il s'agit de « La fessée, question sur la violence éducative » d'Olivier Morel. Olivier Morel, dans cet ouvrage, nous parle de la fessée à travers l'histoire, c'est-à-dire en remontant bien à l'Antiquité, pour nous évoquer ce geste, nous mettre en évidence que c'est un geste que seuls les hommes ont envers leurs petits, alors qu'ils sont censés les protéger de tout. C'est eux qui, en tant que protecteurs, pourtant, ont cette violence-là sur leurs propres enfants, tandis qu'aucun animal ne l'a envers ses propres portées. Donc, il fait état de cela. Ensuite, il fait un tour du monde de la fessée et des punitions donc corporelles pour mettre en évidence les lois qui sont passées dans certains pays et, à contrario, les libertés qui sont prises dans de nombreux pays de justement laisser en place cette fessée. Donc, c'est vraiment une thématique qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Et j'avais envie donc de vous lire un passage de cet ouvrage sur donc la fessée. Et à un moment donné, l'auteur récupère les questions que certaines personnes lui écrivent et y répond dans son ouvrage. Donc ça donne encore un peu plus d'épaisseur au livre. Et ce sont des questions, je pense, qu'on aurait envie de poser aussi à l'auteur, donc elles sont extrêmement pertinentes. Les châtiments corporels prédisposent-ils à subir des abus sexuels ? C'est ce que soutient Jordan Riak, auteur américain d'une étude sur les châtiments corporels. Les enfants qui ont été frappés ne considèrent pas que leur corps leur appartienne. Les coups les habituent à accepter l'idée que les adultes ont un pouvoir absolu sur leur corps, y compris le droit de leur faire mal. Les fessés les convainquent d'autre part que leurs zones sexuelles sont soumises à la volonté des adultes. Il est peu probable que l'enfant qui se résigne à être battu le lundi dise non à un violeur le mardi. Les adultes qui ont été abusés ou exploités sexuellement le savent. Ils cherchent leurs victimes potentielles parmi les enfants à qui on a enseigné « Si tu n'obéis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver » parce qu'ils sont les cibles les plus faciles. Jordan Riak ne donne pas de preuve de son hypothèse, mais elle paraît vraisemblable. Moi, j'ai été frappée, je ne m'en parle pas de plus mal. Qu'en pensez ? On dit cela en général pour défendre les châtiments corporels ou laisser entendre qu'ils ne sont guère dangereux et qu'il n'y a pas lieu de les interdire. Mais considérer comme normal de frapper un être bien plus faible que soi ou accepter qu'il soit frappé prouve-t-il vraiment un bon équilibre intérieur ? Les hommes du passé qui trouvaient parfaitement légitime de battre les esclaves ou ceux d'aujourd'hui qui trouvent normal de battre leurs femmes sont-ils vraiment de bons modèles d'humanité ? Leur sens du bien et du mal n'est-il pas quelque peu perturbé ? Quant à leur logique, est-il cohérent de frapper un enfant comme on le fait fréquemment pour lui apprendre à ne pas frapper ? Les châtiments corporels altèrent dans les esprits aussi bien le sens du bien et du mal que la capacité à voir les évidences. Presque personne ne s'en aperçoit parce que presque tout le monde a été frappé et trouve cela normal. En réalité, notre tolérance à la violence éducative est le signe même de sa nocivité. Voici par exemple ce qu'écrit une étudiante sur un site de discussion d'Internet. « Je pense qu'il ne faut pas abuser car enfermer un enfant dans une armoire ou lui mettre la tête sous l'eau peut causer de graves traumatismes. Mais lui mettre quelques claques de temps en temps, quelques coups de pied et des coups de ceinture ou de balai ne peut lui faire aucun mal s'il le mérite vraiment. C'est ainsi que l'on m'a élevée et je remercie mes parents. Si on regarde le comportement de ces enfants qui n'ont jamais reçu de coups, on comprend pourquoi je dis ça. » L'étudiante qui écrit cela pense être tout à fait raisonnable. Elle dénonce ce qui lui paraît excessif et elle considère comme tout à fait normal et bénéfique ce qu'elle a subi. Or, nous raisonnons exactement de la même façon quand nous préconisons la fessée, la claque pédagogique ou la tape sur la main ou sur les couches. Nous dénonçons ce que nous n'avons pas subi, c'est-à-dire ce que nous appelons la maltraitance, et nous approuvons ce que nous avons subi ou ce qui est considéré comme normal dans notre société. Voilà, la réponse bien évidemment continue. Je crois que c'est plein d'arguments sur lesquels il faut se pencher. Donc c'est un extrait de La Fessée d'Olivier Morel. Nous allons faire une deuxième pause musicale, toujours avec un titre des Naïve New Beaters, Words Hurt. Words hurt, but feeling right. Words hurt, but simply change nothing. Words hurt, but feeling right. Words hurt, but simply change nothing.
offended, but I fully demand it. My pride, my shame, I'm just putting all in. Temperature rise, rising, erasing that smiling. My courage, my game, I'm just doing all in.
Achevons ainsi avec Naïve New Beaters, Words Hurt, notre émission de juillet donc 2019. C'est la dernière émission de l'année, c'est aussi la dernière émission Idéalire. Cela fait donc 4 ans que j'anime cette émission et j'ai décidé d'y mettre un terme donc, cet été. J'ai passé de très bons moments, ça m'a amené à découvrir beaucoup d'auteurs, à faire découvrir aussi la radio à pas mal de personnes autour de moi. J'ai énormément appris sur ce média qui était extrêmement intéressant et qui m'a amené à développer des compétences et m'épanouir tout simplement d'un point de vue personnel. Je vous remercie d'avoir été à son écoute. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous, souhaite un bon été. Je n'oublierai pas de mettre dans ma valise le dernier Roland Fuentes, Tant que durent les rêves. Et puis, il revient à vous de le découvrir par vous-même, puisque je ne vous en ferai pas, malheureusement, une critique. Voilà, je vous souhaite un bel été de lecture. Et puis, peut-être à bientôt. Retrouvez l'émission sur notre site radio-b.fr puisque l'émission est podcastée et sinon en rediffusion dimanche. À bientôt !